Alors, on va, voilà, avec un petit retard. Oui, on va parler plus fort, oui. Donc, cet après-midi, on va commencer avec Marie-France Isère du musée de Rochechouart, de la météorite, qui va nous présenter en fait l'astroblème, l'impact qu'il y a eu à Rochechouart il y a quelques millions d'années. Ensuite, on va enchaîner avec le projet Fripon. Là, voilà. Et puis donc, ça tombe bien parce qu'il pleut. Donc, on va montrer comment on peut faire de l'astronomie du soleil sous la pluie. Normalement, Yannick, c'est à 17h, donc on se tiendra prêt. Et puis, après, on essaiera d'enchaîner avec une maquette du système solaire qui va nous tenir chaud, là. Et il y avait une présentation du planétaire. Alors, pour la présentation du planétaire, je ne sais pas si on aura le temps en fait avant 16h. Si on n'a pas le temps, on le fera vers 17h30. Hein. Vers 16h, on fera une pause. Et à l'occasion de la pause, en fait, il faudrait faire une petite photo de famille. Et en espérant qu'il ne pleuve pas à ce moment-là, on la fera donc sur l'esplanade dehors, hein, au niveau des gradins. Voilà. Et puis s'il pleut, bah, on trouvera notre endroit. Hein. Voilà, et donc on prendra à 16h30 pour la séance du planétarium. Et là, effectivement, on essaiera de tenir les délais parce qu'à la suite de cette séance-là, une deuxième séance, donc il ne faut pas qu'on déborde trop. Voilà, donc je ne parle pas plus. Ah, ben c'est cet après-midi aussi, vers 15h. Je ne l'ai pas annoncé parce que je l'ai pas vu, mais oui, c'est tout à l'heure. Mais c'est prévu, c'est prévu. Voilà, donc je te laisse la parole et à tout à l'heure.
Bien, bonjour à tous. Alors je vous préviens, je ne vais pas faire comme le monsieur de tout à l'heure. Hein. Moi, je ne suis pas capable de le faire. Si vous venez sur le terrain, éventuellement, c'est plus cool. Moi, je n'ai pas l'habitude ni du micro, ni du diaporama. Je suis avant tout animateur terrain et voilà, c'est ce qui me fait venir aujourd'hui. Alors, j'ai cru comprendre très vite ce matin que vous étiez tous à fond dans l'astronomie, donc je vais passer très vite sur ça. C'est juste pour vous montrer que ma démarche, comme celle qu'il y a à l'espace d'exposition, on reprend toujours depuis le début pour pouvoir en arriver aux météorites, parce que si on parle que de la météorite de Rochechouart-Chassenon, voilà, il manque quand même quelque chose. Donc à chaque fois, on remet les choses dans leur ambiance, dans leur cadre. Donc ça, je pars du principe que vous savez. Donc en ce qui concerne les différents réservoirs, donc ça c'est pareil, je pense que vous savez aussi. Non, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, principalement, nous connaissons, enfin, nous estimons exister dans le système solaire trois réservoirs, dont un des principaux, c'est la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Je tiens à vous dire que l'objet, le projectile qui est venu nous voir à Rochechouart il y a 201 millions d'années, plus ou moins deux, j'y tiens, très important, eh bien, nous ne sommes pas en capacité de vous dire si c'est plutôt un objet qui vient de la ceinture d'astéroïdes ou de la ceinture de Kuiper ou ailleurs. Parce que le cas de Rochechouart est très particulier, nous n'avons pas de fragments. Pour ceux qui connaissent le météore cratère dans le désert de l'Arizona, vous avez des fragments de la météorite. Nous, en France, je peux le dire en France puisqu'il n'y a qu'un seul cratère, nous n'avons pas de fragments. Il faut savoir que Rochechouart a été un des premiers sites scientifiques où les scientifiques ont commencé à comprendre qu'au moment d'un impact, une météorite pouvait complètement se transformer. Donc, les différents réservoirs, donc ça, je passe. Les astéroïdes, alors c'est pareil, vous ne m'entendrez jamais employer pour le projectile de Rochechouart, astéroïde ou comète, puisque nous ne sommes pas en capacité de vous dire vraiment quel était le corps parent, en fait. Et ensuite, ben voilà, le nuage de Oort que vous connaissez certainement. Bien. Et les comètes. Bien. Alors, Au niveau des météorites, donc à ce sujet-là, je vous en ai apporté un certain nombre d'échantillons. Certains d'entre vous, vous avez déjà vu dans la vitrine, donc dans la salle à côté. Je vous invite à venir me voir après hein, pour que vous puissiez voir quelques échantillons. Les échantillons, nous en avons qui ont été donnés par Alain Carion et d'autres, c'est Brigitte Zanda du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui me les a confiés. Et d'ailleurs, à ce sujet, dans une semaine, je vais aussi sur un autre pôle fête de l'astronomie et je vais la rencontrer de nouveau. Au niveau des météorites, donc, nous avons plusieurs cas. Soit vous avez des météorites qui vont être à l'origine des fameuses étoiles filantes, hein, ces phénomènes qui sont très rapides et que la plupart du temps nous n'avons pas le temps d'observer, surtout quand on est plusieurs. Vous allez voir le phénomène, mais vous n'allez pas forcément avoir le temps de dire à votre voisin, ben voilà, regarde, c'est déjà passé. Alors que les bolides, ce sont des événements qui sont quand même un petit peu plus importants en temps et en luminosité. D'ailleurs, à ce sujet-là, sur l'espace d'exposition où je travaille, donc l'espace météorite, nous avons depuis un peu plus de six mois, nous avons une caméra dans le cadre de la mission Fripon. Et cette caméra, alors j'ai pas mis la photo dans mon diaporama parce que le bolide c'est une autre photo que je suis allée chercher. Eh bien, dites-vous que notre caméra a déjà vu un certain nombre de phénomènes lumineux. Pas suffisamment important pour aller chercher sur le terrain des météorites, mais on désespère pas. Donc notre caméra en fait a vu en fait un phénomène qui a marqué, je dirais, le sud de la France, puisque c'est nous qui avons commencé à capturer au mois de mars, début mars, hein, je me souviens plus de la date exacte. Le phénomène, et puis ensuite il a été suivi jusque dans l'est de la France. Et les scientifiques, donc François Collat notamment et Sylvain Boulet, nous ont dit qu'ils étaient satisfaits parce qu'ils ont vu que les caméras avaient une utilité et que c'était pas de l'argent jeté par les fenêtres. Donc là, on a été rassurés. Il faut savoir que nous également sur notre toit, nous avons aussi une antenne, hein, puisque lorsque le ciel est couvert, tous ces petits phénomènes, on ne les voit pas, mais on les entend. Donc ensuite pour les météorites, eh bien inférieure donc à la taille d'une bille, ça va être à l'origine des étoiles filantes avec rien qui va arriver au sol. Mais à partir du moment où vous allez commencer à rentrer dans des tailles qui vont approcher le ballon de foot jusqu'à la taille d'une voiture moyenne, eh bien on va pouvoir se retrouver en face d'objets qui vont arriver au sommet de l'atmosphère, vont pouvoir traverser l'atmosphère. Alors ça prend pas des heures, hein, en quelques secondes c'est arrivé au sol si l'objet est suffisamment résistant. S'il arrive au sol sous forme de poussière, on va plutôt parler de micrométéorites. Donc dites-vous que les météorites peuvent arriver sur Terre jusqu'à la taille d'une voiture, mais ça ne va pas être aussi conséquent que le cratère d'impact dont je vais vous parler tout à l'heure. Pour un cratère d'impact, nous pensons aujourd'hui que les météorites, à partir de 10 mètres, sont capables de faire de tels événements. Alors, les météorites, je voulais vous en parler aussi un petit peu, même si moi, c'est pas ma spécialité. Je suis pas comme Brigitte Zanda, qui, en fait, est spécialiste des météorites. Je voulais juste vous proposer ce tableau récapitulatif. Alors, excusez-moi, mais le rouge ne se voit absolument pas. Dans la partie, vous voyez, il y a deux familles de météorites. Ça nous montre que les corps parents, donc les corps parents qui sont par définition avant ce qu'on appelle les astéroïdes et les comètes, ont vécu de deux façons distinctes. Soit eh bien, le corps parent a évacué très rapidement la chaleur, donc du coup on s'est retrouvé devant de la matière que l'on appelle primitive, pas de texture particulière bien évoluée, mais par contre une texture qui est quand même très typique des météorites. C'est pour ça qu'on va vous parler de chondrite, puisqu'une chondrite, en fait, a quelque chose d'intéressant dans son volume quand on l'observe, non pas tout à fait à l'œil nu, enfin pas toujours, mais de temps en temps au microscopie. Eh bien, c'est tout un ensemble de petits chondres. Et ce qui est intéressant dans les chondrites, eh bien, c'est que ce soit les silicates ou tout ce qui est métaux, eh bien, ça, c'est intimement lié. en fait. Et c'est pour ça qu'on se permet de parler de matière primitive. La plupart du temps, la texture nous rapproche énormément de la composition solaire. Donc voyez-vous, alors comme je l'ai écrit en bleu, ça se voit un petit peu mieux, globalement, les chondrites ordinaires, c'est celles qui arrivent la plupart du temps en grande majorité sur Terre, c'est pour ça qu'il y a 80%. Et les deux autres, en fait, c'est 4%, hein, que ce soit les carbonées ou à enstatite. En sachant que les carbonées sont très très importantes pour les scientifiques, puisque ce sont ces météorites-là qui peuvent nous faire supposer que c'est elles qui nous ont apporté les briques qui sont à l'origine de la vie sur Terre. Donc ce sont des choses que l'on retrouve qui peuvent nous aider à expliquer et à comprendre éventuellement pourquoi la vie a été si rapide à démarrer sur Terre. L'autre partie des météorites, c'est celle que l'on appelle les différenciés. Donc du coup, quand vous regardez le schéma, ça fait penser étrangement à la coupe de notre planète Terre avec un noyau, un manteau et une croûte, en sachant qu'il faudrait que je mette proto devant chaque terme, puisque ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des zones qui sont évoluées comme ce que nous avons sur la planète Terre. Et de ces volumes qui ont connu une certaine différenciation, c'est-à-dire que ce sont des objets qui ont gardé assez longtemps une chaleur interne importante, et ça a permis aux éléments de migrer. Nous ne pouvons pas dire que certains corps parents avaient une certaine activité nucléaire. On pense plutôt que cette activité thermique à l'intérieur des volumes était liée aux nombreuses collisions, puisque au tout début du système solaire, c'est vrai que les collisions étaient quand même assez courantes. Aussi bien l'une comme l'autre des deux familles, aujourd'hui, ce ne sont pas les corps parents que nous recevons, mais ce sont des fragments obtenus suite à des collisions qui ont eu lieu, qui ont lieu encore et qui auront lieu certainement dans les millions d'années qui y viennent. Et les fragments, une fois obtenus, eh bien, pour certains, croiseront un jour la trajectoire de la Terre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne, c'est entre 100 et 1000 tonnes par jour de matière qui arrive sur Terre. C'est quand même pas mal. Ça veut dire que nous sommes toujours dans le processus d'accrétion, formation des volumes. Ça s'est ralenti, mais nous sommes toujours dans ce même processus qui continuera jusqu'au moment où l'étoile décidera que c'est terminé, qu'on tire le rideau. Bien. Donc, selon les zones d'où proviennent les météorites, vous allez avoir différents types d'objets. Alors, je dirais pas que les météorites des corps différenciés ne sont pas intéressants. Si au contraire, ils vont être intéressants parce qu'à leur étude, c'est de là qu'on découle, qu'a découlé en fait notre compréhension de la composition de notre planète Terre et de la répartition des éléments à l'intérieur du volume. Alors, voilà un petit peu les points que vous avez qui correspondent aux chutes que nous avons en France depuis 500 ans à peu près. Nous sommes arrivés à pratiquement 80 échantillons récupérés, en sachant que 2015, il y en a eu, notamment une en Mayenne. 2011, c'est la chute de Draveil qui a quand même été assez importante en volume. Il faut savoir que si le projet Fripon a vu le jour, malgré le terme qui est pas très sérieux, mais quand vous le traduisez, c'est pour pouvoir en fait repérer tous les phénomènes lumineux qui concernent l'atmosphère. L'objectif des scientifiques, c'est de pouvoir démontrer que nous avons perdu une certaine habitude de vivre dehors. Et nous avons en fait complètement laissé passer un certain nombre d'objets qui sont arrivés au sol. Puisque sur une année, on pense qu'il y a plus de 10 météorites qui peuvent arriver au sol et nous concerner. Alors pas simplement en France, bien sûr, mais cela dit, ça montre que ces caméras, c'est pour remplacer en quelque sorte la veille que nous pouvions avoir dans les temps passés. Donc pour ceux qui veulent l'apprendre par cœur, j'ai la liste. Voilà. Donc les plus récentes, c'est ce que je vous disais, c'est la Mayenne qui est en haut de la colonne, la première colonne, en sachant qu'il y en a beaucoup qui sont passés complètement inaperçus. En plus, ce qui se passe pour Fripon, et à ce sujet-là, bon, je fais partie du groupe d'un des nombreux groupes de travail au niveau de Vigiciel et Fripon, et nous nous heurtons systématiquement à un problème. C'est que si une météorite tombe dans des zones, je dirais, un petit peu plates comme la plaine de la Beauce, normalement ça devrait être un peu plus facile à aller chercher. Par contre, si ça arrive chez nous, par exemple au niveau du Massif central, hein, du côté de Limoges, ça monte, ça descend, il y a des forêts, je pense que nous allons avoir des difficultés à trouver les météorites. Et là, en fait, quand on discute avec les scientifiques, eh bien, ils n'ont pas de réponse à nous proposer. Pour aller récupérer plus facilement les objets. Même si je reconnais que la recherche d'une météorite, si elle arrive au sol, ne se fera pas qu'avec une seule caméra. C'est qu'il y aura eu un travail de triangulation pour pouvoir estimer l'arrivée et réduire la zone de recherche. Mais enfin, ça fait rien. Quand votre terrain est accidenté, ils n'ont toujours pas donné de réponse à comment est-ce qu'on allait faire. Bien. Alors, je rentre un peu plus dans le détail. Donc, la météorite de Rochechouart, c'est une météorite qui a été estimée à 6 milliards de tonnes. Je m'arrête sur la masse. Je vais vous donner quand même le diamètre, parce que souvent, vous me le demandez. Mais pour moi, le diamètre n'est pas capital. Ce qu'il faut, il faut s'arrêter surtout sur la masse. Le diamètre a été estimé à 1,5 km. Mais si vous avez une chose à retenir, c'est bien la masse. 6 milliards de tonnes qui est arrivée à 20 km seconde. Et vous pensez bien... Oui, non, c'est vrai. Hein. Je n'ai pas bu de vin exprès pour ne pas vous dire de bêtises. Hein. 20 km seconde. Donc, vous imaginez, vous êtes un sportif hors pair. Je pense que vous vous mettez sur la ligne de départ avec la météorite. Je pense que c'est quand même elle qui va gagner. 20 km seconde, ça veut dire que rien ne va résister au contact de cette onde de choc, de compression qui va en fait arriver. Alors, il faut imaginer que au moment de l'impact... Vous allez avoir une compression assez importante qui va se faire dans les tout débuts, là, en fait. Là, déjà, l'objet, le volume est déjà enfoncé, mais il faut imaginer que là, déjà, nous avons une zone de pression qui va s'exercer au niveau du sol, et vous allez avoir une partie de la faune, une partie de la flore, une partie du sol qui va passer de l'état, je dirais, normal à quelque chose de vitrifié que nous allons appeler les vers d'impact. Sur le site français, nous n'avons pas mis en évidence ces produits-là, mais à partir du moment où il y a eu un cratère, des brèches d'impact, nous pouvons supposer qu'il y a eu ces produits-là. Je vais vous donner un exemple de ceux qui ont été récupérés, par exemple en Allemagne, vous avez le cratère d'Uris. Le cratère d'Uris a produit bon nombre de vers d'impact que l'on appelle de la moldavite. Et ces vers d'impact, on les retrouve en Tchécoslovaquie en grande majorité. Ça signifie que entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie, vous avez quelques heures de voyage. Ça signifie que pour nous, cratère français, c'est pas sur le lieu même du cratère qu'il faut aller chercher ces produits-là. Mais comme nous sommes datés à 201 millions d'années, il faut bien imaginer que tout n'était pas à la place où c'est aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a certainement des terrains qui se sont plus que recyclés et qui ont peut-être digéré ces produits-là. Bien. Alors, l'arrivée du bolide est quand même assez rapide, ça je viens de vous le dire, et au moment du transfert, vous allez en fait avoir deux énergies qui sont importantes au niveau de la formation d'un cratère, en sachant que pour un cratère d'impact, c'est l'énergie mécanique qui est quand même assez importante, puisque quand on regarde au niveau des produits obtenus, que l'on appelle les brèches d'impact, nous avons quand même un gros volume de roches issues de ce processus mécanique. L'énergie thermique, enfin ce que nous appelons les brèches de fusion, ça reste quand même en volume un volume plus restreint. Alors, bien sûr, si les impacts, il n'y avait qu'un seul type de cratère, ça irait. Il faut que vous ayez en tête que lorsqu'une météorite, selon sa taille, selon sa nature également, parce que tout à l'heure, je vous disais à partir de 10 mètres, si je voulais être juste avec vous, c'est 10 mètres pour les météorites métalliques, 100 mètres pour les météorites dites pierreuses, hein, je mets ça entre guillemets. À partir de ce moment-là, nous sommes pratiquement sûrs d'avoir un cratère une formation d'un cratère au sol. L'événement qui aurait pu former un cratère d'impact, c'est la chute de la météorite de Chelyabinsk, voilà, excusez-moi, j'ai toujours du mal à dire ce nom-là, en février 2013. Vraisemblablement, si la météorite avait été un objet un petit peu plus riche en métal, il est fort possible que nous aurions eu un cratère d'impact. Bon, là, dans ce cas-là, cette météorite, en fait, a explosé avant d'arriver au sol. Donc, c'est l'effet de souffle qui a un petit peu, entraîné de la destruction relativement importante au niveau matériel. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de morts qui ont été recensés. Ou alors on les a cachés. Bien. Ensuite, eh bien, nous allons passer au cratère complexe avec Pic Central. Donc, voyez-vous, ça, ce sont des météorites un petit peu plus grandes. Si un jour vos pas vous emmènent en Allemagne, vous avez Steinheim, qui est un cratère à Pic Central. Il vaut le déplacement, puisque une fois que vous savez où vous allez, ça se voit encore très, très bien. Le Pic Central est recouvert d'une forêt, mais le cratère, on peut très bien et facilement l'embrasser au premier coup d'œil. C'est un cratère qui fait 3 km 200, hein, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, eh bien, on passe au cratère au-dessus. Donc nous, pour le cratère français, vraisemblablement, nous serions plutôt dans ce cas de figure, cratère complexe à anneau central, enfin au moins un. Ça signifie que le rebond que vous avez ici, en fait, ce sont pas des dépôts, mais c'est vraiment au moment de la détente, vous allez avoir des roches et des blocs qui vont être accélérés avec des vitesses différentes, ce qui fait que ça va former un anneau. Alors par contre, ce qu'il y a, c'est que autant en Allemagne, vous allez pouvoir voir le cratère à Pic Central et le grand bassin qu'il y a au niveau du Ris, autant nous en France, ça c'est quelque chose qui reste complètement invisible. Alors c'est pas qu'il a été comblé, mais il a complètement été érodé. Alors un petit tour sur, les cratères que nous avons dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à 184 cratères d'impact. Donc, voyez-vous, le plus petit, c'est ce que vous lisez, hein, c'est 24 mètres. Et puis, le plus grand, eh bien, il fait, à l'heure actuelle, on est parti sur du 500 km, mais il n'est pas visible. À l'heure actuelle, on suppose qu'il est là. Et nous, le nôtre fait 20 km de diamètre. Donc, vous voyez, on n'est pas très grand. On n'est pas très petit non plus. Tout ça, c'est quelque chose qui peut encore arriver. Hein. Lorsqu'on voit le phénomène février 2013, ça laisse réfléchir et on se dit, finalement, demain, ça peut encore nous arriver. La chance qu'on a eue à peu près, c'est que ce phénomène en Russie a concerné quand même une zone où c'était pas très concentré en population et que l'objet était relativement petit. Mais avec toutes les listes de géocroiseurs qui existent, on peut supposer que demain, ça peut encore nous arriver. Bien. Alors, Rochechouar, voilà où c'était au moment de l'impact. Alors, je vous dis tout de suite que là, j'ai gardé la carte qui ressemble plutôt à une île. Au niveau du massif central. Dites-vous qu'entre-temps, nous avons en fait jonglé entre un continent qui se tenait complètement, une île, à l'heure actuelle, en fait, nous sommes revenus sur cette hypothèse d'île qui était avancée au tout début quand nous étions encore datés entre 160 et 220 millions d'années. Donc la météorite est venue ici et va former un cratère d'impact. Donc ça, c'est un schéma qui est valable que sur le dessin. En réalité, quand on est sur le terrain, même lorsque c'est un vrai cratère bien conservé, c'est pas aussi net. Hein. Les lignes sont pas toutes parfaitement, tirées au cordeau. Il faut savoir que sur un cratère d'impact, et puis pour ceux qui viendront faire du terrain avec nous, on s'amusera à vous montrer les différentes altitudes du plancher du cratère. Alors le plancher du cratère, en fait, c'est la limite que vous avez ici, entre au-dessus les roches nouvelles et les roches du socle, celles qui sont restées en place, qui ont été extrêmement malmenées au cours du processus, mais pas suffisamment pour être transformées, pour obtenir des brèches d'impact. Alors, les brèches d'impact, Vous avez la première, donc vous les verrez mieux dans mes vitrines, hein, puisque j'en ai apporté quelques kilos de cailloux, donc vous pourrez voir mais en direct. Celle-ci, c'est la brèche qui est la plus importante en volume, c'est celle qui va correspondre à, grosso modo, le dépôt qui va venir reposer directement sur le plancher du cratère. Où nous avons un souci, on va dire, c'est que normalement nous aurions dû avoir de la brèche comme ça ici, au niveau de la zone centrale. Les scientifiques ne sont pas encore complètement tous d'accord pour donner une réponse pourquoi nous n'en avons pas directement d'observable. Alors, ce qu'on peut supposer, c'est qu'au cours du processus de détente, il y a vraisemblablement eu naissance d'un rebond central qui aurait pu donner naissance à un pic. Mais comme nous sommes dans une structure de 20 km et plus au niveau diamètre, eh bien, le milieu est tellement instable et malléable que la structure centrale ne peut pas tenir. Elle va en fait s'effondrer. Et on suppose qu'au moment de ce phénomène-là, une partie de la roche liquide va être légèrement, malmenée, et puis elle va réussir à se mélanger intimement à de la brèche mécanique. Parce que concrètement, quand on est sur le terrain, nous obtenons un mélange qui fait étrangement penser à de la brèche de fusion, mais qui au départ devait être de la brèche de mécanique. Alors ensuite, une autre famille de roches. En fait, la brèche mécanique que je vous présente, elle s'est formée dans des températures moyennes de 400 degrés. Celle qui vient de s'afficher en haut de votre écran, c'est ce qu'on appelle la suévite. La suévite, en fait, et c'est la partie blanche que vous voyez, la suévite va présenter à la fois des fragments, donc l'un côté solide, et vous allez avoir des éléments liquides qui sont en fait présents dans la matrice. La suévite est une brèche d'impact que l'on retrouve également en Allemagne, hein, puisque ces deux familles de roches là que je vous présente sont présentes également sur site. La troisième, c'est une très belle roche rouge. Alors ça se voit peut-être pas sur l'écran projeté. C'est pareil. Au départ, celle-ci était classée dans la famille des suévites parce qu'il y a des fragments et de la roche liquide. Sachez qu'à l'heure actuelle, on est en train un petit peu de bousculer les choses, hein, sur le site français, à commencer par la taille de la météorite, donc la taille du cratère. Il est fort possible que nous allons peut-être être poussés, on va peut-être passer de 20, 25 à 30, 35, voire peut-être 50. Les scientifiques ne sont pas des Marseillais, je vous rassure, mais voilà, à l'heure actuelle, il y a un problème sur le terrain, c'est que celle-ci, que je viens d'afficher, n'est plus classée dans la famille des suévites. Elle est petit à petit poussée dans la famille des brèches de fusion, comme celle-ci, qui sont en fait particulières et qui signent la zone centrale du cratère. Ça veut dire que si on englobe cette roche rouge qui est présente dans cette zone-là au niveau de la même famille que celle-ci, ça veut dire que vous agrandissez la zone centrale du cratère. Si vous agrandissez la zone centrale, nous sommes obligés de repousser les bords du cratère et donc d'augmenter à la fois le diamètre donc, du cratère, mais également de la météorite. Bon, ça, c'est en cours, hein, à l'heure actuelle. Alors, bien sûr, il y a les éjectats extérieurs. Alors, les éjectats extérieurs, dans un cratère d'impact, je vous ai dit que la dépression, c'est 20... Allez, on va dire 20 km de diamètre, c'est quelque chose qui est accepté par, pour l'instant, tout le monde, ça fait l'unanimité. Les éjectats, en fait, il faut bien penser que ce sont les roches qui vont être éjectées de part et d'autre du cratère. On le voit bien sur certains cratères lunaires où c'est très agréable, on voit bien les limites. Là, on est sur des blocs qui vont pouvoir être éjectés à plus de 50, voire 70 km du point d'impact. Donc ça va quand même relativement loin. Par exemple, lorsque nous sommes à Rochechouart, nous sommes pratiquement au centre, eh bien, les éjectats vont pouvoir aller au-delà de Limoges et au-delà d'Angoulême. Et donc les éjectats, c'est une chose, et puis ça, c'est la zone de conséquences. C'est-à-dire que vous avez le cratère, vous avez les éjectats, et ensuite vous avez toutes les zones où eh bien, il va y avoir des modifications. Alors, modifications, alors pourquoi les modifications au niveau de la vie en surface ? Eh bien, vous allez avoir des nuées ardentes, vous allez avoir des vents violents, des gaz toxiques, vous allez avoir des secousses sismiques. Tous ces éléments eh bien, vont se répandre tout autour du cratère. Et si on restait au niveau de la météorite des 6 milliards de tonnes, voilà en fait la zone qui serait concernée par l'impact de Rochechouart. Ça veut dire que si on change et que l'on arrive à un cratère peut-être de 50 km, ça veut dire que là, on ira en Europe hein, au niveau des conséquences. Alors voilà, ça c'est à apprendre par cœur avant de partir. C'est les différentes hypothèses. Et oui, parce que là, moi je vous parle comme si c'était quelque chose d'évident et que ça coule de source, mais le cratère d'impact n'a pas toujours été une évidence, loin de là. Les scientifiques vont très rapidement avancer l'hypothèse, je dirais, de quelque chose de sédimentaire et de volcanique. Sur le terrain, on peut vous le prouver, hein, parce que les brèches d'impact, enfin, quand vous regarderez dans mes échantillons dans la vitrine, il y a des roches qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des formations sédimentaires et d'autres qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des formations volcaniques. Ce qui fait que ces deux hypothèses majeures vont être maintenues jusqu'en 1967. Alors, c'est vrai que vous allez dire, oui, mais 67, c'était hier. Hein. Alors, il faut que vous ayez aussi à l'esprit la science des impacts. C'est quelque chose qui va démarrer après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Ça va monter en puissance en même temps que les missions spatiales, la conquête de l'espace, etc. On n'avait pas forcément... Alors, c'est pas qu'il n'y avait pas des gens qui pouvaient imaginer qu'il y avait des cratères sur Terre comme sur la Lune. C'est qu'en fait, c'était malvenu d'y penser. Vous pensez bien que la Terre, rien ne peut lui arriver. On n'est pas comme la Lune. On était protégés. Donc, rien, c'était pas possible. Mais même les météorites en tant que cailloux, scientifiquement parlant, ça a été reconnu à partir de 1803-1805, ce sont les années 1808 pour nous en France, puisque ça correspond à la chute de l'Aigle, où vous avez en fait une pluie de cailloux qui va s'abattre. Ce qui fait qu'il y a tellement de témoins que tout le monde ne peut pas être fou en même temps. Donc du coup, ils se sont dit, bon, finalement, on va peut-être dépêcher des scientifiques sur le terrain et puis on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. À partir de ces moments-là, on va commencer à les étudier d'une manière scientifique, les météorites. Mais de là à reconnaître que la Terre peut être criblée de cratères d'impact, c'était pas encore le moment. Donc il faut encore être un petit peu patient. Donc nous, la personne clé de la découverte du site, c'est François Crott. François Crott était quelqu'un qui travaillait donc au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et ce sont ses travaux qui vont lui permettre en fait la reconnaissance, en sachant que François Crott a dû énormément tenir son bout hein, par rapport à ses collègues scientifiques, parce que en fait, s'il a pu classer le site cratère d'impact, c'est grâce à ça. Alors, grâce à ça, c'est quoi ? Eh bien, ce que vous avez en haut, c'est ce qu'on appelle les minéraux choqués. Alors, il faut imaginer que François Crott les avait trouvés aux alentours de 64, déjà. 1964, apparemment, dans ses notes, il mentionne des figures très particulières observées dans les minéraux. Et oui, parce que ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas à l'œil nu. Il faut vraiment passer par le biais du microscope. Et il va le confier à ses collègues, donc en Allemagne, aux États-Unis, mais ses collègues font comme si de rien n'était, n'est-ce pas ? Ils vont peut-être pas le prendre pour un fou, mais bon, voilà, pour l'instant, ils sont pas préoccupés par ça. En sachant que 64, c'est vrai qu'on est dans les années où il y a encore pas mal de choses à comprendre sur les cratères d'impact. À ce sujet-là, Météor Cratère va être simplement reconnu en 1953. Un météore cratère, c'est le cratère que vous avez dans le désert de l'Arizona. Donc il présente cette trouvaille, mais bon, il ne va pas être entendu. Bien. Il va continuer à chercher, et puis du coup, ce qui va se passer en 63, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que 65, il va y avoir la reconnaissance du site allemand. Et en fait, au moment où les Allemands vont présenter leurs travaux, François Crotte va se rendre compte que finalement, ce qui a été trouvé en Allemagne ressemble étrangement à ce qu'il a trouvé dans les minéraux. Donc, il revient à la charge. Cela dit, ses collègues vont lui dire « Bah ouais, mais il faut trouver absolument soit des morceaux de météorites, soit ces autres déformations que l'on appelle les cônes de pression. » Alors, je m'excuse, mais on m'a interdit maintenant, et puis du coup, j'ai pas corrigé. On n'emploie plus le terme de percussion. Je me suis fait taper sur les doigts récemment par Ludovic Ferrière. Il me fait « Non, pas percussion. Donc là, on parle de pression. Où vous aurez toujours tout juste, si vous employez le terme de shatter cone. » François Crotte a énormément de mal à découvrir ce deuxième indice, et en fait, il va le trouver un jour qu'il est en train de faire visiter le site à des collègues américains et allemands. Et en fait, ils vont trouver, d'une manière complètement accidentelle, des roches qui ressemblent étrangement à ce que vous avez devant les yeux, mais dans les murs des maisons. Et en fait, ils vont poser des questions aux personnes qui habitent le village, où est-ce que ces roches sont. Et en fait, ils ont trouvé que c'était dans une petite carrière. Alors, c'est au fin fond, en contrebas d'un champ. Alors, il faut savoir que ce site-là, il n'est plus aussi beau que vous montre la photo. Je vais vous expliquer pourquoi. En 1994, ce site a été pillé à la barre à mine. Donc, ce site-là a perdu toutes les figures de shatter cone que vous voyez. Alors, un shatter cone... Alors, vous voyez, je reviens deux minutes sur les minéraux choqués. Vous voyez, les minéraux choqués, ça fait comme des lignes. En fait, il faut imaginer que ces lignes, vous les poursuivez dans le volume du minéral. Et en fait, ça fait comme des feuillets. Les cônes de percussion, en fait, c'est la même chose. Vous avez ces traits là qui apparaissent, ça fait un sommet ici, et en fait, ça fait des plans. Sauf que les plans, ils ont glissé les uns par rapport aux autres, et ils forment ces structures très particulières de cônes. Alors, en sachant que tous les cônes de percussion ne sont pas aussi grands que ceux-là, hein, qui sont de l'ordre de 50 cm à 80 cm à peu près. Les miens, enfin, j'en ai apporté un échantillon, vous verrez, ça fait 2 cm. La grande majorité des cônes de percussion formés dans les roches en France sont de l'ordre de 20 cm au maximum. Alors qu'en Allemagne, sur le cratère du Ries, les cônes de percussion vont pouvoir, en fait, entre le sommet et la base, dépasser les 1,20 m, voire les 1,50 m. La différence entre nous et le site allemand, c'est simple. En Allemagne, les cônes de pression, se sont formés dans de la roche sédimentaire à grains fins, alors que chez nous, ça s'est plutôt fait aux dépens du microgranit. Donc, grains plus fins que le granit, certes, mais pas suffisamment pour pouvoir imprimer la déformation. Donc, que ce soit les minéraux choqués ou les cônes de pression, ce sont des preuves d'une onde de compression qui a en fait une onde de choc qui est passée en fait dans l'ensemble des volumes et qui a en quelque sorte tracé son chemin. Donc François Crotte trouvera officiellement les minéraux choqués en 67 et les cônes de pression en 69 et à partir de là reconnaissance définitive du site au titre de cratère d'impact. Nous sommes parmi les troisièmes cratères aux côtés d'un certain nombre de cratères canadiens. Pardon, je ne vous ai peut-être pas laissé lire. C'est pas grave, vous ne m'en voulez pas. De toute façon, c'est trop tard. Voilà. Donc ça, c'est le cratère juste après l'événement, ça vous connaissez. Ça, c'est la ligne d'érosion. Et c'est aujourd'hui. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien à voir sur le site français. Je ne tolère pas qu'on le dise. Alors, c'est pas parce que j'y travaille, hein. Mais au fur et à mesure de mes travaux d'animation, j'ai appris à découvrir le site Et en discutant avec maintenant bon nombre de scientifiques, je m'aperçois, et c'est ce que je voudrais que vous entendiez aussi parce que ça c'est important, un cratère d'impact est intéressant. C'est pas en le voyant bien conservé, avec, enfin, comme ce qu'on a sur Mars, Mars, il y en a sur la Lune. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est parcourir le terrain pour aller à la rencontre de ces roches dans la nature. Ensuite, partir à la rencontre, mais on va se déplacer, parce que si un jour vous faites du terrain avec moi, vous allez vous déplacer comme ça, puisqu'en fait, on va se déplacer sur l'ensemble de la structure en surface. Mais vous allez également vous retrouver à vous promener dans l'épaisseur du cratère. Et il n'y a qu'un cratère érodé qui peut vous proposer ça. Les cratères, par exemple, si vous êtes allé ou si vous allez un jour sur Météor Cratère, c'est bien, vous allez faire le tour. C'est super, ça fait une super balade. Il y a une zone où on peut se retrouver au-dessus du vide, mais vous ne pouvez pas descendre dans la dépression. Mais c'est la dépression que vous voyez. Moi, je trouve que l'histoire d'un cratère ne se raconte pas qu'avec le dessin de surface. Il faut enlever le vernis et aller en dessous. Et c'est comme chez les personnes, en fait. Ce qui est intéressant, ce n'est pas le vernis. C'est ce qu'il y a, je dirais, en chacun de nous. Eh bien, un cratère d'impact, c'est la même chose. C'est vraiment parcourir le terrain, se retrouver dans des zones où on les a exploitées plus ou moins, puisque les plus beaux sites d'observation et de comparaison au niveau des terrains, c'est les anciens sites de carrière. C'est vrai qu'on peut déplorer que la roche a été exploitée, mais ce que je peux vous dire, c'est que les roches qui ont été exploitées, qui sont dans nos murs, sont sauvées. Elles sont sauvegardées, alors que dans la nature, le processus d'érosion continue. Et là, récemment, je suis allée sur un des sites en réserve, puisque nous avons une réserve naturelle qui a vu le jour en 2008. Ça ruisselle, la terre végétale coule sur la roche qui est de plus en plus pourrie, et du coup, voilà, on a des glissements de terrain, et puis petit à petit, les informations sont complètement détruites. Mais cela dit, il y a quand même pas mal d'autres vestiges où, franchement, je pense que ça vaut le détour. Mais enfin, ça, c'est vous qui me le direz quand vous viendrez vous promener avec nous, si je ne vous ai pas complètement déçu. Alors, quelques clichés de patrimoine bâti, puisque quand on se promène sur le terrain, nous allons également découvrir les roches dans les diverses utilisations qu'il en a été faites. Donc nous avons tout le patrimoine. Vous avez donc le château de Rochechouart qui est au milieu. Vous avez les maisons, vous avez les églises, vous avez les croix comme celles que vous avez sur votre droite, vous avez les puits, vous avez aussi les fonts baptismaux, nous avons des urnes funéraires, nous avons des lavoirs, nous avons des meules, enfin bon, beaucoup de choses ont été réalisées avec de la brèche d'impact, et pour nous ce sont des témoins, c'est vraiment des choses qui nous restent, qui sont importantes. La seule chose que vous ne pourrez plus voir, c'est ça. Pour l'instant, les thermes gallo-romains, qui sont la plus ancienne construction en brèche d'impact, sont pour l'instant fermés au public. Alors, c'est pas qu'il y a eu des accidents, c'est qu'il y a eu un souci au niveau de l'administration et ils ont purement et simplement fermé le site historique. Tout ça pour vous dire que ça continue à travailler. Et la chose importante qui nous arrive là en 2015, ça sera 2016 et 2017, c'est la création d'un centre de recherche. C'est Philippe Lambert qui est en fait le deuxième scientifique qui a énormément travaillé sur le site français après François Crotte, qui en fait a souhaité donner un petit quelque chose de nouveau au site, parce que il trouve que c'est dommage de ne voir que par Mars, alors que sur Terre il y a des informations qui sont directement exploitables. Donc le centre de recherche aura pour mission dans les semaines qui vont venir, puisqu'ils ont réussi à finaliser le budget, ils vont démarrer des séances de forage en fait. Donc les forages vont nous permettre d'augmenter notre information au niveau de la réserve naturelle, et ces forages seront mis à disposition vis-à-vis des scientifiques, mais par contre, il faudra qu'ils motivent leur demande, bien sûr, et charge à eux de travailler sur les échantillons et de nous les ramener. Pardon. Voilà, bon, je pense que... Oui, je t'ai vu te rapprocher, donc j'ai dit ça y est, je m'arrête. Est-ce que...
Voilà, merci beaucoup. Donc, toujours à l'appareil, s'il y a des questions en complément. Pendant ce temps-là, David, tu peux peut-être commencer à installer ton ordinateur. David, pendant ce temps-là, tu commences à installer. Voilà, donc y a-t-il des compléments à apporter Donc, je sais que certains sont déjà allés sur le site en visite un peu organisée, enfin...
Et ils ont survécu, hein.
Ils ont
survécu. Ben ouais, ils ont survécu.
Un site internet, oui, il y en a un.
Oui, on a un site internet avec nos coordonnées, mais j'ai tout en fait, puisque je suis installée. Enfin, j'ai amené une partie de l'espace météorite ici dans les murs du CCSTI. Donc, du coup, vous pourrez récupérer les documents. Il n'y a pas de souci, de telle façon à ce que vous puissiez. Revenir nous voir, hein, ça sera avec plaisir. C'est vrai que la plupart du temps, bon, c'est ce que je disais à certains d'entre vous, je pars du principe que vous êtes des gens qui connaissaient déjà pas mal de choses. Et la plupart du temps, moi, je vous emmène directement sur le terrain. L'espace d'exposition en tant que tel ne vous apportera, je pense, pas plus, en fait. Non.
J'arrive.
Oui. Oui. Deux questions. Pourquoi astroblème? Et deuxième question, est-ce que Rochechouart, le nom a une signification avec le...
Trop facile. Pensez bien. Non, on pouvait faire que un petit peu difficile. Alors, première question. Astroblème, c'est un terme scientifique qui va être consacré à des cratères terrestres avant tout, puisque astroblème, ça vient de astro et bléma, c'est astre et blessure. Et la plupart du temps, en fait, un astroblème, ce sont des vestiges. Vous n'avez pas un cratère parfait. Il y a toujours l'érosion qui a travaillé un peu les données terrain. Alors que quand on va parler des cratères sur la Lune, systématiquement, on va parler de cratères d'impact. Hein. Mais sur Terre, voilà, c'est ce très très beau mot qui fait très bien, hein, quand on est en groupe. Vous sortez ça, c'est parfait. Vous calmez tout le monde, bien sûr. Et Rochechouart, ben non, hélas, ça serait trop facile. Rochechouart vient de Roca et Cavardus. Roca, c'est le rocher. Cavardus, c'est le nom d'une famille. Et juste d'un point de vue historique, la fondation de la ville démarre aux alentours du 9e siècle. La reconnaissance du cratère, 1967, enfin 69. Et donc, voyez-vous, sauf que généralement les gens me disent, bah ouais, peut-être qu'on avait des antennes à ce moment-là, bah peut-être, mais enfin bon, je ne sais pas. Toujours est-il que je ne peux pas vous dire qu'il y a un rapport direct entre la roche qui chute, en fait. Hein, ça ne vient pas de ça. C'est Roca et Cavardus. Voilà, c'est ce que nous avons gardé, enfin c'est ce que nous avons souhaité garder comme explication qui nous semblait la plus, la plus probable. Mais il y a une thèse sur le nom de Rochechouart et voilà, si vous voulez vous y pencher, il n'y a pas de souci. Hein, voilà.
Vous avez dit que la chute du météorite là était datée de 201 millions d'années.
Plus ou moins deux.
Plus ou moins deux. Alors d'où vient cette précision et comment on a déterminé cette date?
Voilà, c'était juste pour vous embêter que j'ai appuyé sur plus ou moins deux. Hein. Bon, alors 201 millions d'années, en fait, ce sont des... il va y avoir la méthode Argon qui va être utilisée au point laser. Ce sont des échantillons qui vont être bombardés en chambre, dans une zone fermée, et on va récupérer l'argon et avec ses deux formes, 39 et 40. Et puis c'est comme ça qu'ils vont en déduire à peu près de cette datation. Il y a eu des autres travaux. Ce sont des travaux par paléomagnétisme qui ont été faits. Alors, et l'un et l'autre des travaux de datation, c'est hélas... Enfin, hélas, non, je n'ai pas le droit de dire ça. On va dire que c'est européen. Ce sont des équipes européennes qui ont travaillé sur la question, notamment par paléomagnétisme. Ce sont des universités allemandes qui ont planché là-dessus. Et en fait, il y a eu un certain nombre de carottages qui ont été faits dans nos sites, et principalement dans des brèches de fusion, hein, puisque par paléomagnétisme, il nous fallait des produits dont les horloges avaient été remises à zéro. Et donc, du coup, avec un certain nombre d'échantillons, si un jour vos pas viennent sur mon terrain, je vous montrerai. Donc, ce sont des petites carottes de 10 cm en profondeur et qui font à peu près 2 cm de diamètre. La première fois qu'ils étaient venus les prélever en 2003, une fois qu'ils les ont étudiés, ils se sont rendus compte que les points étaient tous écartés, ça ne formait pas une ligne. Et donc, quelques années plus tard, ils sont revenus rééchantillonner. Et en fait, ils nous ont dit que, on n'a pas trouvé ça très sérieux, mais lorsque vous prélevez la carotte, il faut vraiment pas que ça tourne. Parce que ça prend, en fait, comment dirais-je, c'est prélevé par rapport au soleil, en fait. Hein, voilà, il y a une certaine prise, je dirais, je trouve pas le terme. Bon, de points GPS, on va dire. Bon, voilà, il nous faut des coordonnées, voilà. Et du coup, les échantillons, il y en avait certains qui avaient été certainement mal récupérés et mal reportés. Du coup, voilà, c'était faux. Mais la deuxième fois, ça a été la bonne, et ça lui a donné en fait une moyenne à peu près de 201. Alors, ce que je voulais vous dire, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi que je vous confie, 201 millions d'années. Ça arrange beaucoup de scientifiques, hein, parce que en fait, nous coïncidons avec une crise biologique, et ensuite nous pourrions donner des explications pourquoi en Grande-Bretagne il y a des dépôts de tsunamites et de sismites. Et du coup, ça serait nous qui serions responsables. Donc du coup, on porte une lourde charge là, mais bon, pourquoi pas. Après, si ça doit motiver d'autres scientifiques pour venir travailler, ma foi, voilà.
Bien, donc on va passer à la suite. Voilà, donc avec le projet Fripon, dont on a commencé à évoquer des petites choses. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce que je peux dire que j'avais oublié peut-être tout à l'heure de signaler. Ça m'a échappé encore. J'ai pensé, je me suis dit, tiens, à 16h, il faut que je pense à dire quelque chose. Voilà. Voilà. Oui, pendant les repas, n'hésitez pas à vous mélanger. Les nébuleuses, elles arrivent. les nouveaux planétaires. Non, mais pendant le dîner de ce soir, n'hésitez pas de vous mélanger entre clubs pour échanger en fait des informations qu'il y a en fait dans vos clubs et voilà. Oui, comme tu. Voilà. Où tu veux. Oui. Voilà, après, c'était pour dire que le petit problème informatique de ce matin au niveau des règlements en espèces était résolu. Hein. Je comble comme. Voilà, donc, on peut certifier que c'est bien David Chiron qui va nous proposer donc un petit exposé donc sur le projet Fripon, dont d'autres font partie, les Céphéides à Royan, donc Rochechouart et la Touraine. Et Olivier Sosereau avec l'association Les Bêcheurs d'Étoiles.
Bonjour à tous, je m'appelle David Chiron, je suis président d'une association d'astronomie, un club d'astro, comme on dit souvent, dans les Deux-Sèvres, tout près de New York, au sud de New York. Notre situation géographique à 20 km au sud de New York est un peu privilégiée parce qu'on a un beau ciel bien étoilé. C'est pour ça qu'on n'est pas dans New York. Donc il faut que je règle les problèmes d'informatique. Alors.
C'est que l'écran est vide en fait, c'est pour ça. Oui, mais c'est qu'il n'y a rien sur l'écran, c'est pour ça qu'il n'y a rien sur l'écran.
Voilà. Donc Fripon, vous en avez entendu parler, j'imagine, tous. On en a même parlé, Marie-France Iser en a parlé juste avant. Donc Fripon, c'est un programme de recherche, de détection de météores et de météorites à l'échelle nationale. Alors Fripon, c'est l'acronyme de Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network. Donc évidemment, c'est difficile de s'en rappeler, ça. Mais on peut le traduire quand même en français. Réseau de récupération de boules de feu, donc des bolides, et d'observation interplanétaire. Alors le réseau de détection et de mesure, il se compose d'une centaine de caméras, un peu plus de 100, disposés sur toute la France, approximativement espacés d'une centaine de kilomètres. C'est la résolution suffisante pour pouvoir avoir plusieurs images d'une même météorite. Sachant qu'une météorite, le phénomène, un météore, un bolide, sachant que le phénomène se produit entre 100 km et 20 km d'altitude, il est visible par plusieurs caméras, s'il n'y a pas de nuages, évidemment. Donc là, voilà, une détection, par exemple, à Vannes, le 23 mars. On voit la Lune. La caméra se déclenche et elle enregistre le phénomène. Un réseau d'une vingtaine d'antennes. Alors oui, les caméras sont principalement dédiées à la géolocalisation du phénomène, si je peux dire en trois dimensions, pour savoir où ça se situe exactement. Les antennes vont avoir leur utilité pour calculer par effet Doppler viso la vitesse du bolide, en mesurant avec une précision assez importante la vitesse du bolide. Alors on mesure bien sûr la vitesse relative, et grâce aux images de la caméra, on peut en déduire la vitesse réelle, parce que ce n'est pas toujours frontal évidemment, ça peut être sur le côté. Donc on a parlé de Rochechouart tout à l'heure, voilà un exemple, l'association Pierre de Lune, à Rochechouart, qui, pour cette association, est équipée d'une caméra à 180 degrés et d'une antenne. Alors, les antennes, je n'ai pas expliqué, elles détectent par effet Doppler viso grâce à l'antenne du radar de Grave, qui est un système de détection d'objets divers dans le ciel, débris spatiaux, tout ça, qui a été installé dans les années 2005, je crois, en France. Et ils utilisent la porteuse de ce radar qui se réfléchit sur le météore. Cette réflexion est mesurée par l'antenne et donc on connaît la vitesse par le décalage de fréquence. Donc voici la carte. Donc en gris, les points gris, ce sont les caméras où elles sont déjà installées, où elles vont être installées, où elles sont en cours d'installation, car le réseau n'est pas complètement terminé. Les petits ronds avec les plus, c'est les pôles régionaux. Des relais, il y aura des relais régionales, parce que je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc on peut s'apercevoir quand même un bon maillage. Bon, ce n'est pas toujours évident de faire un quadrillage comme il faut, parce qu'il faut aussi trouver des emplacements. C'est plus dans des collectivités, des associations. Ce n'est pas des caméras qui sont installées chez le privé. Il faut quand même une pérennité, qu'elle reste en place longtemps. Il y en a qui sont installées au bord de mer. Alors c'est intéressant aussi, puisque en bordure de mer, on profite des brises côtières qui peuvent nettoyer le ciel, entre guillemets, alors que plus dans le continent, il peut y avoir par exemple des brumes anticycloniques qui empêchent certaines détections. En bordure de mer, on ne les aura pas, donc il y a un intérêt d'en mettre en bordure de mer aussi, malgré qu'elles peuvent tomber dans la mer. Donc là, on ne pourra pas aller les chercher si elles tombent dans la mer. Mais il y a un intérêt quand même à les mettre au bord de la mer. Donc voilà la carte actualisée, on va dire, aujourd'hui. À ce jour, il y a à peu près 45 caméras en service. Donc on remarque quand même l'ouest de la France. Bon, ça va arriver, je suppose. Mais voilà, 45 caméras en service. La région du Midi est très, très bien maillée. Et puis, c'est comme je disais que c'était un projet national, mais on espère que ça se développe en Europe. Et ça a déjà commencé avec Bucarest, Vienne, la Belgique. Il va y en avoir 3 d'installés. Puis le projet, la core team du projet souhaiterait bien que ce soit qu'il y ait une extension avec la Germanie, en Allemagne. Donc la région qui nous intéresse. Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être qui viennent de plus loin, mais tant pis, j'ai fait juste cette carte. Donc Marigny, notre association, nous, est située à Marigny. Il y a Angoulême, Rochechouart, Périgueux avec Coulogniex et Bordeaux. Il y a Tours aussi, qui est présent aujourd'hui, et Royan, voilà. Mais pour l'instant, j'ai regardé la carte, elles ne sont peut-être pas encore en service, ça ne va pas tarder. Voilà, bon, ça ne va pas tarder. Oui, vous allez voir, c'est quand on découvre la première image, c'est super. Donc voilà, avec Tours, plus c'est Royan qui par là. On constate qu'il y a un très bon maillage dans la région et on aura certainement plein de détections. Alors les objectifs du projet. Donc mieux identifier les sources des différentes classes de météorites et connaître leurs corps parents. Alors, les corps parents, jusqu'à maintenant, on connaît avec précision 17 corps parents, c'est tout. C'est-à-dire de quel corps provient la météorite. Dans toute la collection, il n'y en a que 17, on peut affirmer, c'est une météorite qui provient de Mars, c'est une météorite qui provient de la Lune, il n'y a que 17 météorites. Sur une collection je crois que le Muséum d'histoire naturelle possède 500 météorites, et assez intéressante, retrouvée, et 1500 petits cailloux, mais bon, 500 intéressantes, c'est peu finalement. Donc pour retrouver leur corps parent, il faut connaître les orbites, et quand on connaît avec précision l'orbite de l'objet qui est entré dans l'atmosphère, on peut facilement remonter et retrouver avec précision le corps parent. Bon, après, des fois, c'est peut-être pas toujours possible, ça dépend d'où ça provient. Enrichir la collection nationale de météorites avec des échantillons rares et non altérés. Alors la collection que le Muséum d'histoire naturelle possède aujourd'hui, c'est des anciennes météorites surtout qu'on en trouve, on en détecte de moins en moins, on en ramasse de moins en moins. Donc c'est des vieilles météorites qui ont été altérées par le temps, qui ont été très étudiées et qui ne sont pas très fraîches. Il faudrait pouvoir trouver des météorites qui viennent juste de l'espace, en fait. Donc c'est un but, c'est le but d'enrichir la collection. Donc, enrichir la collection, il faut en trouver. Et comme aujourd'hui, nos modes de vie ne permettent plus trop de trouver de météorites, de détecter des bolides qui tombent, des cailloux qui tombent du ciel. Pourquoi ? Parce qu'on est concentré dans les villes. Contrairement à avant, on est à la campagne. À la campagne, le soir, on allait s'occuper des animaux. On était dehors, on faisait plein de choses et on voyait tomber des choses. Ça pouvait arriver. Aujourd'hui, on est plus en ville et on est plus chez soi, quoi, tranquille. Donc, on voit moins tomber les cailloux du ciel. Donc, il faut faire quelque chose pour pouvoir en détecter plus. Donc, Fripon est là pour ça. Donc, au 19e siècle, on voit à peu près toutes les météorites qui ont été trouvées. Et là, vous avez le 20e siècle. 19e et 20e siècle. Il y a une grosse différence. Donc là, il y a un problème. On ne peut plus étudier ces objets si on ne les trouve pas. Donc Fripon va pallier à ça et on l'espère va même augmenter le chiffre par rapport au 19e siècle, ce qui serait logique puisqu'on a un œil vraiment 24-24. Alors, le troisième objectif, faire de la science participative et partager l'aventure avec le public. Ça, c'est un côté de Fripon très important qui va faire appel au public, tout simplement. Donc là, Fripon, pour le troisième objectif, s'arrête. C'est le projet Vigiciel qui prend le relais. Parce que Fripon est représenté par des laboratoires, des scientifiques, qui n'ont pas vocation d'éduquer le public. Ils n'ont pas un réseau aussi important que Vigiciel. Vigiciel, c'est un réseau qui existe depuis avant Fripon. Donc ce réseau va être en charge de l'éducation, apprendre aux gens à reconnaître les météorites avant d'aller les chercher. C'est important parce que si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouve rien. Donc c'est un réseau aussi de responsables régionaux qui feront le relais avec les associations et avec toutes les collectivités, maires, préfectures. Parce que quand on trouve une météorite, quand on veut la trouver, avant de la trouver, il faut la chercher. Quand on cherche une météorite, bah, elle peut être dans des zones privées, agricoles. Si une centaine de personnes débarquent dans un champ pour chercher une météorite, bah, ça ne va pas le faire, quoi, comme on dit, hein. Donc il faut que la préfecture soit au courant pour prévenir les gens. La presse sera de la partie aussi. Donc c'est quand même une grosse structure. Donc voilà. Donc il a fallu simuler quand même. Parce qu'avant de faire, il faut être sûr que ça va marcher. Est-ce qu'on est capable avec le public il faut trouver des cailloux qui ne sont pas comme ceux d'habitude. Est-ce qu'on va être capable de les trouver? Donc il y a une simulation qui a été faite lors d'un festival. Sur une surface de 10 arts au hameau des étoiles. Donc 12 météorites ont été décimées sur la surface. Elles ont toutes été retrouvées, plus des leurs. Les personnes, des jeunes, des moins jeunes, ont suivi une formation la veille. Il faut que ce soit frais. Il ne faut pas former les gens et puis qu'ils aillent chercher les météorites 6 mois après parce que les gens se rappellent plus ce qu'on leur a expliqué. Donc c'est important qu'il y ait l'effet d'instantanéité. Et elles ont toutes été trouvées et il n'y a aucune erreur. Donc on peut espérer. Bon, là c'était un champ bien propre. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas. Hein. Mais bon, la simulation a fonctionné. Bon, quelques dates importantes du projet Fripon. Juin 2013, l'ANR, l'Agence nationale de recherche, finance le projet. C'est un projet qui représente à peu près, avant qu'on me le demande, 500 millions d'euros pour 10 ans. Septembre 2013, le bureau des longitudes, on l'appelait comme ça avant, mais c'est plus joli, je trouve, que IMCCE, développe un outil de calcul du point de chute. Alors, bien sûr, l'outil de calcul, il prend en compte la triangulation et aussi l'aspect météorologique. Quand le météore s'est éteint, que la combustion s'est terminée, il continue sa course à peu près à 100 km/h. Et là, selon le vent, la direction des vents et la pluie, il peut y avoir des marges d'une fourchette de 10 km quand même. Il se retrouve avec, il peut tomber à 45 degrés. Hein. Ça peut très bien se faire, selon son incidence. Donc cet outil permettra de déterminer avec une précision qui peut aller du kilomètre carré à 30 km carrés, selon la situation. S'il tombe verticalement, ça, on comprend facilement que l'ellipse est moins étalée que s'il arrive de plus de champ, quoi, en fait, de travers. En octobre 2013, recrutement de deux ingénieurs. Un ingénieur qui est un spécialiste des systèmes et réseaux, systèmes informatiques et réseaux, qui est en charge de mettre en place et de maintenir toutes les stations Fripon, l'informatique, pour que tout fonctionne bien. Et un ingénieur spécialisé dans la réduction astrométrique et le calcul des ellipses de chute, des orbites pour déterminer la provenance des objets. En 2014, la qualification des matériels est terminée. Mi-2015, l'ensemble des caméras a été reçu. Donc tout le monde a reçu sa caméra. Fin 2015, début de la livraison des PC. Donc ça s'est étalé un peu, le projet a pris un petit peu de retard, mais bon, c'est pas très grave. Début 2016, 25 caméras en service déjà. Mars 2016, une cinquantaine en service. Donc là, ça progresse assez rapidement. En 3 mois, on a doublé le nombre de caméras et on peut espérer que, courant de l'été, toutes les caméras seront en service. Donc voilà, par exemple, la détection d'un bolide. Bon, là, c'est une super détection. Un bolide de magnitude moins 10. Alors, les caméras ont été réglées pour détecter des bolides de l'ordre de magnitude moins 3, moins 4. Hein, c'est une petite étoile filante de rien du tout. Le système ne sera pas forcément activé. Détecté par 11 stations. Donc là, après, quand on fait des calculs avec autant d'images, avec une vue différente, on arrive à des précisions quand même assez intéressantes. Après, tout bolide ne tombe pas forcément sur au sol. Hein, il peut se consumer entièrement. Surtout si c'est un météore non ferreux, comme on nous l'a expliqué tout à l'heure. Qu'il est plutôt fait de roche, il peut se consumer entièrement, il n'en reste plus rien. Par comparaison, une météorite de 10 cm ferreux, pour avoir la même chose en rocheux, il faut 1 mètre de diamètre, parce qu'elle se consume énormément. Quand c'est rocheux, ça peut être un caillou d'1 mètre de diamètre et on retrouvera que 10 fois moins gros. Donc voilà. Donc les caméras sont visibles en direct sur Internet. Quand vous allez sur la page Fripon, vous avez l'image, vous arrivez sur cette carte. Là, et vous cliquez sur le petit logo, puis vous cliquez, vous arrivez sur la caméra en direct. Alors il y a deux choses, il y a les images en direct, toutes les 10 minutes, et la détection. La détection, elle, on ne la voit pas en direct forcément, mais quand il y a une détection... Le bolide est filmé à 30 images secondes et là, les données sont envoyées à l'Observatoire de Paris. L'Observatoire de Paris diffuse ces données au public, mais en garde la primeur pour faire des calculs. Il y a un certain délai entre les calculs et la diffusion au public parce qu'ils se réservent quand même le droit, c'est à eux de calculer, c'est pas parce qu'il y a peut-être des amateurs qui seraient capables de le faire aussi, mais après, ils le feront. Ah, c'est pas... On voit des gens très... très pointu. Voilà, donc ça, je reviens à Marigny un peu. Par contre, je ne vous l'ai pas dit, dans le monde, il y a des expériences un peu similaires, hein, en Australie. Mais bon, pour l'Europe, c'est vraiment... on n'a jamais fait aussi important au niveau du maillage et de la précision. Il y avait des expériences avec des caméras, mais sans antennes. Donc les antennes permettent quand même de calculer les orbites. Donc c'était des projets intéressants, mais qui n'allaient pas jusqu'au bout. Et pour ce qui est de retrouver les échantillons au sol, la France, là, c'est le seul pays à avoir mis ça en place au monde. Donc voilà. Donc ça, c'est Marigny, voilà. Nous, notre petite salle où on se réunit, elle est derrière, là. Donc, bon, voilà, c'est installé. Voilà, alors c'est un peu, il y a plein de fils, hein, c'est pas très, mais ce sera rangé. On a prévu d'installer une armoire sous clé, quelque chose de tout. Mais voilà, pour vous donner une idée de la station Fripon. Donc c'est un PC. Alors faut plus imaginer les PC qu'on transportait dans son coffre de voiture, c'est fini. Maintenant il fait 10 cm de côté, il n'y a pas d'écran sans clavier. Il est alimenté par une batterie et là il y a un routeur, tout simple. La caméra est reliée au routeur ici. Le PC. Oups, avec le petit câble, j'ai plus quelle couleur. Bon, enfin bref, ça devrait être le jaune. Et on allume, et après, il y a une personne qui est chargée, l'ingénieur, qui s'occupe du projet côté informatique. On communique un peu avec lui, voit si tout est OK. Puis le jour où on l'a installé le 12 mars, donc c'est récent. Le soir, 23h, on avait déjà une image, la première image de la caméra, puis toutes les 10 minutes, on a une image. Donc voilà, un projet qui fait appel aux associations, parce qu'il va falloir quand même s'occuper de nettoyer la caméra de temps en temps, parce que ça se salit, hein, pour avoir toujours des images convenables. En cas de panne, on se fera le relais logistique, hein, on pourra réinstaller les matériels, débrancher, tester, voilà, il y a quelqu'un qui est sur place. Donc c'est très pratique pour un projet de cette envergure-là, quoi. Voilà, puis là, alors on ne le voit pas trop parce que l'éclairage. Voilà le ciel de Marigny, hein, pas de pollution lumineuse, donc on voit les étoiles. C'est pas le cas de toutes les caméras, mais c'est pas très grave. Hein. Les bolides ont avec une magnitude de moins 4. Même si on est à Bordeaux, on le voit le bolide, donc c'est pas très grave. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions.
Merci. Voilà, d'éventuelles questions. Le financement, donc.
Le financement, c'est le Muséum d'histoire naturelle, l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Mais il y a quand même. Alors, c'est un financement aussi. Il y a le côté matériel, payer les salaires. Mais il y a aussi du temps. Il y a cinq laboratoires qui sont engagés dans le projet, qui donnent du temps, évidemment, sur leurs équipes. Des équipes qui ne font pas que Fripon, mais qui ont du temps de réflexion, de calcul. Ça, après, c'est donner du temps. Mais ça, ce n'est pas la même chose, après.
Ouais. Quel type de caméra vous utilisez ? Les World Sky ?
C'est des caméras. Alors, le type exact, je ne me souviens plus. Shellac, c'est une société française. Voilà, c'est 180 degrés, fisheye, 30 images secondes. Après, le capteur, le détail technique, je ne me suis pas penché sur le problème.
Concrètement, comment vous ferez pour aller chercher la météorite qui sera tombée dans le champ du père Mathurin, qui aura un magnifique champ de blé? Comment on fait sur un plan légal pour récupérer?
Ça, c'est une très bonne question. Là, justement, moi, je travaille pas dans le droit, mais c'est pour ça qu'on fait appel à la préfecture, à la gendarmerie, à tous les acteurs locaux qui, eux, feront la relation avec le public.
Alors,
il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes, mais ça peut être aussi, ça dépend des personnes. Hein. Il y en a qui vont accepter, d'autres pas. Ça, c'est les aléas. Le côté récupération, recherche, il y a un côté un petit peu aléatoire. Malheureusement. Ça, après.
Si je comprends bien, de toute façon, ce n'est pas le propriétaire de la caméra qui va avertir qu'il y a un impact. C'est bien l'IMCCE qui va définir.
Oui, c'est Vigiciel qui s'occupe de ça.
Donc c'est Vigiciel qui vont s'occuper de la partie, on va dire.
Ah, tout à fait. Nous, on ne s'occupe pas de la relation. On est en communication avec les représentants régionaux. Donc on est là pour mettre en marche, pour les aider, mais c'est eux qui décident de tout, quoi, quand même.
C'est le découvreur. Mais le découvreur, c'est Fripon.
À qui appartient la météorite ?
Bonne question. Normalement, c'est... Après, il y a la jurisprudence, quoi. Mais c'est 50% au propriétaire du terrain, 50% au découvreur, c'est-à-dire celui qui fait la battue, c'est moi qui l'ai. Puis il peut partir en courant, s'il veut. Après, voilà, c'est le bon sens. Mais on peut tomber sur des gens qui souhaitent avoir revendiqué la propriété. Il y aura certainement un problème de ce côté-là.
Toutes les personnes qui font la battue signent un document qui transfère leur part de propriété à, oui, bah, à l'IMCCE. Oui. C'est-à-dire que ouais. avant de commencer la battue, les personnes signeront un papier qui fait un renoncement à sa part de propriété en contrepartie de la participation à la battue. Par contre, l'autre partie, celle du propriétaire du champ, là, elle reste. Ouais. C'est la loi.
Après, il peut l'alléguer. Bon, ceci dit, une météorite qui n'est pas, qui n'a pas été expertisée, dont la valeur n'a pas été déterminée, ça ne vaut pas grand-chose. Il y a un intérêt pour les gens qui possèdent des météorites, alors là, c'est un aspect plus large, de collaborer avec les scientifiques pour qu'elles soient étudiées, expertisées et qu'on ait donné une valeur. C'est un échange.
Est-ce que tu peux dire deux mots de la démarche participative du club et l'état actuel et sur la durée de sa participation, comment ça fonctionne et ce qu'il en est effectivement?
Nous, on est des acteurs, on fera appel à nous, mais on n'est pas acteurs dans le sens où on n'a pas des comptes à donner, on n'a pas des choses à faire régulièrement, si ce n'est que l'entretien, suivre que tout fonctionne bien. Après, c'est quand même les scientifiques qui s'en occupent. Fournir une ligne Internet, mais c'est la mairie qui fournit, donc ils auront toujours une ligne Internet, évidemment. Vous, c'est le club ? Donc voilà. D'accord. Donc après, évidemment. Mais il y a chaque cas est un peu particulier. Donc, moi, je suis venu vous parler de Fripon à un autre niveau, ce qu'on en connaît. Après, il y a certainement des personnes qui sont plus impliquées dans le projet et qui ont beaucoup plus de réponses à vous apporter que moi. On est venu nous chercher, c'est-à-dire par nos situations géographiques. Et puis, on est une association assez active, on nous connaît un peu. Donc voilà, on est venu nous chercher.
Voilà. Ah, dernière.
Oui, mais c'est pour qu'on entende la question. C'est toujours François Collat qui est le responsable de tout le projet ou c'est d'autres personnes
oui,
actuellement?
Monsieur Collat, oui, toujours. Mais alors, c'est pas, faut que je vous explique, c'est pas moi le président qui ai fait la relation avec tout le projet Fripon, c'est notre trésorier qui est en relation avec eux, qui a échangé des mails, qui a prévu des dates d'installation, tout ça. Mais il n'a pas pu venir aujourd'hui, donc j'ai pris le relais un petit peu. Mais bon, voilà, il y a peut-être des réponses que je ne pourrais pas vous donner par rapport au nom des personnes.
Voilà, bien. On va changer de sujet de projet collaboratif. Merci. Merci encore beaucoup. Et on va aborder donc On va aborder un sujet de collaboration donc entre amateurs et professionnels autour de la détection de nébuleuses planétaires avec Gérard Martineau, donc président de la SCPP.
Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Gérard Martineau et comme vient de le dire Eric, je suis le président de la Société d'astronomie Poitevine et en abrégé SAPP. Avec Yolande Bûcher, nous avons introduit une activité nouvelle dans le club qui s'appelle la spectroscopie. Et jusque-là, vous ne voyez pas le lien avec le sujet de l'exposé, la recherche des nébuleuses planétaires. Rechercher des nébuleuses planétaires et parler de spectroscopie, de premier abord, on ne voit pas. Hein. Mais pourtant, on va être obligé de vous le faire parce que vous allez comprendre, au fur et à mesure du déroulé de l'exposé, vous allez comprendre pourquoi on est obligé d'utiliser cet instrument. Alors, la spectroscopie, c'est l'analyse de la lumière à travers un instrument que l'on appelle précisément un spectroscope. Et cet instrument, je ne sais pas si tout le monde le voit. Il comporte une entrée par où rentre la lumière. Cette lumière est dirigée sur un miroir de renvoi qui prélève une partie de cette lumière pour avoir ici l'accès à une caméra de guidage. Et ensuite, le reste du rayon continue son chemin. Il est renvoyé à angle droit sur un réseau qui se trouve ici. Je vous dirai ce que c'est qu'un réseau. Ensuite, il passe dans une collimatrice et le faisceau est renvoyé sur une caméra ici qui s'appelle. Le rayon est renvoyé sur une caméra qui s'appelle ici caméra d'acquisition. C'est une caméra très lourde, une caméra QSI et qui a un rendement quantique assez bon. La caméra de guidage doit aussi être très bonne pour que les opérations se passent bien. Donc, bien sûr, tout ça, c'est relié au télescope. Ça s'emboîte dans le télescope. La caméra est reliée à un ordinateur, une alimentation et l'ordinateur. La caméra de guidage, elle est reliée à l'ordinateur et à la monture. C'est l'ordinateur qui l'alimente. Pour ça, il faut mettre un hub pour monter un petit peu, enfin, pour soulager un petit peu l'ordinateur. Voilà. Pardon. Ça donne un setup comme ça, oui. Oui, ça fait trois ordinateurs à l'intérieur de l'observatoire. Alors, le premier ordinateur, c'est un planétarium, en fait. C'est ce stellarium qui nous suffit jusque-là, parce que stellarium, ça descend quand même, si tout le monde connaît, c'est un logiciel gratuit qui descend quand même à la magnitude 12-13. Donc 12-13, c'est déjà beaucoup de travailler sur des objets de 12-13 et surtout de les avoir comme ça sur l'écran avec leurs coordonnées. Ensuite, vous avez là deux ordinateurs. L'un, c'est la caméra de guidage et l'autre, c'est la caméra d'acquisition. Et le troisième volet, c'est un chercheur électronique qui se situe sur le télescope. Et le chercheur électronique, lui, il a vocation à aller chercher la photographie du ciel que vous êtes en train d'explorer et qui descend, le chercheur aussi, à magnitude 13. Ce qui fait qu'il y a une conformité entre le chercheur électronique et le planétarium. Et ça aussi, ça suppose une caméra, une caméra qui n'est pas grosse, mais qui est très chère, mais qui est très, très efficace. Voilà donc pour le comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on attrape avec un spectroscope? Eh bien, on va vous faire voir ça sur une étoile. Voilà. Si on prend ce type d'étoile, c'est l'étoile variable 700 de la Licorne. Eh bien, ça va être difficile parce qu'il faut qu'elle est, vous avez vu qu'elle est en point fit, donc il faut que je vous cherche le logiciel qui lit les points FIT. Ce sera un peu plus long, excusez-moi, mais pas trouvé de... T'aurais pu le faire, c'est vrai. Il faut que je retrouve mon répertoire. Voilà, vous obtenez ça. Par contre, je ne peux pas tirer les seuils. Je ne sais pas, ça doit être un défaut. Ouais, là, après. Oui, avec un projecteur, on ne peut pas tirer le seuil. Mais si on... Voilà, là, c'est surexposé, vous voyez. Si on tirait le seuil, eh ben, vous verriez ici des... je ne peux même pas vous faire voir la particularité de cette étoile. Pénible, ça. Je peux réduire. Par contre, je peux peut-être réduire. Voilà. Donc, vous regardez ici... Une anomalie, c'est que une surbrillance, c'est pas un artefact, c'est l'arrêt de l'hydrogène alpha dans le rouge qui est en surbrillance. Et si on pouvait tirer les seuils, eh bien on verrait ici une autre arrêt, l'arrêt H bêta de l'hydrogène dans le bleu. Celle-ci dans le rouge, celle-ci dans le bleu. C'est quoi l'arrêt H bêta? C'est quoi l'arrêt C'est quoi l'arrêt HALFA, eh bien, ce sont ce qu'on appelle des raies d'émission. Des raies d'émission, pourquoi émission ? Parce que l'étoile que l'on vient de prendre ici, c'est une étoile B qui tourne très vite. Et en tournant très vite, elle crée un disque de matière dans son équateur. Ce disque de matière, il est très chaud, donc il est ionisé. Il est ionisé. Le rayonnement attaque les atomes qui sont présents. Et les atomes qui sont présents en majorité ici, ce sont des atomes d'hydrogène. Les électrons de cet atome d'hydrogène, il n'y en a qu'un, bon, difficile. Cet électron, il est un petit peu déplacé, suivant la température du disque. Eh bien, il est déplacé, il revient à son niveau initial, et en revenant à son niveau initial, qu'est-ce qu'il fait ? Il émet un électron, il émet un rayonnement dans une couleur. S'il est assez peu excité, il va rayonner dans le rouge. S'il est un petit peu plus excité, il va rayonner dans le bleu. Donc on aura deux raies d'émission, une raie H alpha, une raie H bêta, et quelquefois on trouve la raie H gamma. Et toutes les autres raies de l'hydrogène qui se trouvent ici, ben, elles sont en creux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émission. Elles sont profondes et en creux. Ça, c'est les étoiles BE. Alors ces étoiles BE, c'est notre travail, je dirais pas quotidien, mais au moins chaque semaine. Et voilà ce qu'on a fait jusque-là. À quoi ça ressemble ? Bon, ici, vous ne voyez pas tout le spectre. Hein. Tout à l'heure, je vous ai présenté un spectre entier. Là, vous voyez que l'arrêt H alpha. Et ce que vous voyez là, c'est la... Tout à l'heure, vous avez vu un ruban lumineux. Là, vous voyez une transcription sous forme de profil de ce que vous avez vu tout à l'heure sous forme de ruban lumineux. Et vous le voyez que sur la partie brillante et qui ne concerne que 150 angstroms. Voilà. Donc là, vous avez une raie H-alpha, et ici, vous avez une raie de l'hélium. Vous voyez qu'ici, là, dans cette étoile, je crois que c'était... je ne sais pas quelle était l'étoile. C'était Chéliac, c'était la première. Hein. Eh bien, dans Chéliac, qui est fortement... c'est une étoile assez complexe et assez chaude. Eh bien, l'hélium est excité comme l'hydrogène. Voilà, et vous voyez qu'elles ont différentes allures. Et comme ça, on en a une soixantaine. Hein, je vous les passe. Donc, oui, Yolande m'a dit que c'est après traitement des images, parce que l'image brute que vous avez vue tout à l'heure, qui s'appelle le spectre 2D, eh bien, ce spectre est traité et devient ensuite un profil. Et comme ces étoiles, nous les envoyons à l'observatoire de Paris-Meudon, eh bien, il faut qu'elles soient absolument sans erreur. Oui. C'est-à-dire qu'il faut que le calibrage... On va revenir... Voilà, il faut que le calibrage ici, oh ben c'est simple, c'est 0,5%. Voilà, sur 4000 pixels sur toute la longueur, un angstrom d'erreur tolérée. Et ici, on va à 0,5 centième dans l'angstrom toléré. Voilà, donc c'est un travail assez délicat. Donc ça, c'est là, ben vous voyez ce que vous avez vu tout à l'heure, l'étoile V700. De la licorne, si on la retrouve. Oui, on va parler des nébuleuses. Oui. On va parler des nébuleuses, on va faire... Là, voilà. Oui, vous l'avez là. Toi que vous aviez tout à l'heure, une très forte raie d'émission, une très forte raie d'émission aussi dans le H-bêta, et les autres raies, ben, ma foi, elles sont en absorption. Et là, vous avez le profil entier de l'étoile avec son maximum, ici, son lambda max dans le bleu. Alors, le lien avec les nébuleuses planétaires. Donc, comme je vous ai dit, ces étoiles, ces profils sont envoyés à l'observatoire de Paris-Meudon et dans la base qu'on appelle la base BESS. Et cette base regroupe à peu près 50 personnes dans le monde entier. Il y a 50 personnes dans le monde entier qui font ce genre de travaux. Donc, ce qui veut dire qu'avec un instrument comme celui-ci, on arrive à prendre des profils spectraux qui contiennent des informations sur la nature, ici, dans ces étoiles, le BE, sur lesquelles on travaille plus particulièrement. Vous avez une réponse uniquement sur l'hydrogène, mais quand on passe à d'autres astres comme les nébuleuses planétaires, et cette fois-ci on y arrive, vous allez avoir des choses tout à fait différentes. Donc il va falloir que je refasse le même travail. Et cette fois-ci, voilà, on va prendre celle-là. On va prendre 6543. C'est une nébuleuse que tout le monde connaît, que tout le monde a pris en photo, qui est assez belle en imagerie. Donc je recommence. Vous allez voir que c'est tout à fait différent. Hein. Si quelqu'un connaît un moyen plus rapide pour revenir du point où on est parti, vous me le direz après. Il n'y en a que trois comme ça, hein. C'est juste pour vous faire voir. Voilà. Ça, c'est une nébuleuse planétaire. Donc, vous voyez, on peut prendre des nébuleuses planétaires en imagerie, mais on peut les prendre aussi en spectroscopie. Et là, vous avez, de l'information. Là, vous allez retrouver les raies, la raie H-alpha. La raie H-alpha qui va être entourée de deux raies de l'azote. Quelquefois, dans certaines nébuleuses planétaires, vous allez avoir ici les raies du soufre. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous allez retrouver aussi les raies de l'oxygène. Et tout un tas d'autres raies que j'ai pas notées ici, à moins qu'elles soient sur le profil, peut-être les vératons. Et vous voyez que déjà, vous allez avoir, qu'est-ce que j'ai dit là, l'oxygène, deux raies de l'oxygène, la raie H-bêta, et puis quelquefois des raies de l'hélium, des raies de l'argon, quelquefois un peu plus loin. Et dans une autre nébuleuse planétaire que l'on vient de faire récemment, qui est la nébuleuse planétaire NGC 1501, qui se trouve dans la constellation de la girafe, eh bien, on trouve ici, quelque part, une énorme raie du carbone C4. Donc il y a déjà de l'oxygène, mais on a trouvé aussi des traces du carbone. Et ça, je vous parle là de l'étoile centrale. Hein. Parce que, suivant la position que vous prenez dans la nébuleuse planétaire, quand elle est suffisamment large, eh bien, vous prenez l'enveloppe ou vous prenez aussi l'étoile centrale. Tout à l'heure, on vous fera voir une nébuleuse planétaire qui n'a pas d'étoile centrale. Donc, retenez bien, quand on spectralise une nébuleuse planétaire, on obtient des réponses dans l'hélium, dans l'hydrogène, dans l'oxygène, dans le carbone aussi, quand l'étoile centrale est une wolfrayée, dans l'azote, dans le soufre, dans l'argon et dans le néon. Donc ça vous donne une idée de la richesse du milieu de la nébuleuse planétaire. Oui, j'aurais dû, tout le monde le sait, d'ailleurs tout le monde connaît les nébuleuses planétaires, tout le monde sait comment elles sont composées. Hein. Vous avez une étoile centrale, plus ou moins chaude, c'est le résultat de l'évolution d'une étoile qui va de 0,8 à 7 masses solaires. Et en fin de vie, cette étoile se dissocie, ou plutôt sa partie centrale qui a déjà brûlé son hélium, qui est en train de brûler son carbone, en se réchauffant, elle, la pression de radiation éjecte l'enveloppe. Mais cette enveloppe reste à peu près une dizaine de milliers d'années et on peut l'analyser. Et on l'analyse précisément avec la spectroscopie. Le lien avec la découverte des nébuleuses planétaires et la recherche par les astronomes amateurs. Bon, les astronomes amateurs, ils savent faire ça, certains. Il y en a d'autres qui font de très très belles images avec les différents filtres, dont les filtres H-alpha. Maintenant, il y a le H-alpha azote. Vous avez le filtre S2 et vous avez le filtre O3. En combinant ces trois filtres, certains d'entre vous font des images superbes et ils arrivent même quelquefois, on va le voir tout de suite, on essaye d'aller vite. Bon, je vous présente ça. Ça, c'est la plus belle, à mon avis. C'est celle de Nicolas Wouters. Nicolas Wouters, là, il est à sa quatrième découverte. C'est-à-dire que sur un fond de nébuleuse archiconnue, qui s'appelle SH129, il a, en combinant ses filtres et en regardant un petit peu mieux ses photos, il a trouvé cette espèce de structure qui ressemble en rien à une nébuleuse planétaire, mais les nébuleuses planétaires, vous les connaissez toutes, hein, il suffit de regarder dans Hubble, vous avez 3000 dessins différents de nébuleuses planétaires. Donc, pour lui, cette chose pouvait être une nébuleuse planétaire, donc c'est le premier réflexe d'un amateur, et là, je dirais que c'est l'amateur en imagerie là, qui commence. C'est lui qui trouve l'anomalie sur sa photo, l'anomalie sur sa photo ou sur le web en regardant les photographies des professionnels. D'ailleurs, les professionnels, c'est que celle-ci, s'il l'a découverte, c'est que personne ne l'avait jamais vue. Et c'est quand même assez surprenant. Donc c'est avec le jeu de ses filtres qu'il a pu faire ressortir cette image. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il y a toute une démarche, mais ça peut-être Madame Acker vous en parlera ce soir. Il y a toute une démarche, c'est de se dire, est-ce que cet objet-là est connu? Déjà, il faut en connaître sa position astrométrique extrêmement précise. Et puis, regardez dans les catalogues, et ça, il y a des logiciels qui le font. En général, le logiciel Prism, il fait très bien ce travail, la mesure astrométrique. Donc, il va interroger ces différents catalogues. Il va interroger le NGC. Il va interroger, elle n'est pas dans le NGC. Il va interroger encore moins dans Messier. Il n'y en a que 3 ou 4 dans Messier. Ensuite, il va aller dans l'index catalogue. Après, il va aller dans le catalogue de Perec et de Kohoutek. Après, il va aller dans le catalogue de Vorontsilov. Ensuite, il va aller dans le catalogue d'Abel. Et puis, finalement, s'il trouve la présence, ou plutôt l'absence de cet objet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va téléphoner au centre de données stellaires de Strasbourg et il va dire à Madame Acker, j'ai trouvé quelque chose d'anormal dans la nébuleuse SH129. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que c'est que ce genre d'objet? Parce qu'on ne pense pas tout de suite à la nébuleuse planétaire. Voilà, donc, ils sont en ce moment, il y a à peu près 5, 6, 7, 7 personnes qui, par cette démarche-là, par l'interrogation des objets qu'ils trouvent dans leur photographie, dans la photographie de leurs collègues, dans la photographie des professionnels, eh bien, ils passent leur temps, disons, et ils sont récompensés. Ils passent leur temps à chercher l'intrus, si vous voulez, et en tire les meilleures photos possibles avec le jeu des filtres. Et après, une fois qu'ils ont positionné, essayé d'éliminer déjà le fait que cette étoile existe déjà, eh bien, bah, il s'adresse en dernier ressort à Madame Acker à Strasbourg. Et que fait Madame Acker à ce moment-là? Eh bien, elle se dit, bah, je vais vous donner une confirmation. Je vais demander à mes étudiants de faire le spectre. Et vous voyez où on passe au spectre. De faire le spectre de cette étoile, enfin de cet objet. Et puis, ben remarquer si les raies que l'on a remarquées tout à l'heure sont présentes ou sont absentes. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les raies que je vous ai fait voir là, dans la nébuleuse 6543, eh bien, vous retrouvez à peu près les mêmes dans M42. Il y a du H-alpha qui est entouré de l'azote. Il y a de l'oxygène, il y a du soufre, elles y sont toutes. Donc, comment trancher quand vous êtes sur un objet comme ça, tout à fait inconnu, M42 c'est connu, hein. 6543 aussi, on connaît bien leur nature. Mais sur un objet comme ça, en plus qui est inscrit devant, je ne sais pas trop s'il est devant ou derrière, enfin, on pense qu'il est devant, qui est inscrit devant une nébuleuse région H2 en fait, eh bien, vous risquez d'avoir les mêmes raies. Sauf si vous faites une analyse spectrale pointue. Et précisément, on a eu la chance il y a 2 ans, lorsqu'on était en stage à l'Observatoire de Haute-Provence, d'être à côté de Christian Buil, qui avait pris à Toulouse, ancien urbain, hein, qui a pris une photo de cet objet et qui en a fait un spectre et qui a refait la même chose devant nous à l'observatoire de Saint-Michel. Et là, vous allez voir que hein, ouais. Ah, si, je trouve pas. Voilà. Donc, tout à l'heure, c'est pour illustrer, si vous voulez, le montage du télescope et du spectro. Vous voyez les deux caméras acquisition et guidage. Et sur une lunette, hein, sa lunette, c'est une Takahashi, elle est bonne. Hein. Hein. Donc, il a fait la photo avec un filtre H-alpha. Il l'a fait aussi avec un filtre O3 de 13 nanomètres et le H-alpha de 5. Donc, ce qui, en plus, avec un 0,73 de réducteur de focale. Donc, ce qui lui a permis de, non pas de prendre ça, parce que ça, je pense, c'est pas lui qui l'a fait, mais ça lui a permis de prendre ça et ça. Là, c'est avec le filtre H-alpha. Et là, c'est avec le O3. Donc déjà, avec le O3, c'est quoi le O3? C'est le filtre qui va vous faire ressortir les raies de l'oxygène. Donc ça, c'est déjà une hypothèse de travail très, très importante pour dire que la candidate est peut-être une nébuleuse planétaire. Mais il a continué son expérience, et il a positionné la fente du spectro sur la partie la plus brillante de la nébuleuse, vous voyez, donc ici en H-alpha, et là-bas en O3. Donc ça, c'est la fente du spectro. Vous savez combien ça mesure une fente de spectro? 35 en moyenne, mais là, il travaille avec une fente de 50 microns. Donc c'est un cheveu coupé en deux dans le sens de la longueur. Et dans ce cheveu coupé en deux, il faut faire rentrer une étoile. Donc ça, c'est, il faut une précision dans la. Il faut que le télescope réponde bien. Voilà. Oui, j'avais pas fini l'explication de spectro. Oui, donc la lumière, elle rentre dedans, elle va sur le réseau. Le réseau, c'est quoi? C'est un bloc de verre qui est taillé suivant que vous faites de la basse résolution ou que vous faites de la haute. La haute résolution, il est taillé à 2400 traits par millimètre. Donc dans un millimètre, il y a 2400 traits. Et quand vous faites de la basse résolution, il n'y a que 300 traits par millimètre. Donc la lumière qui arrive sur ce réseau, elle est dispersée en arc-en-ciel, sous la forme d'un arc-en-ciel, du bleu au vert. Et c'est cette dispersion qui est prise en photo par la caméra d'acquisition. Voilà. Donc c'est comme si le spectre solaire, c'est pas le spectre solaire, c'est le spectre stellaire qui est étalé sur la caméra. Donc, voilà l'image de la fente sur l'objet. Alors, ce qui est magnifique, quand vous avez des objets de ce type-là, c'est que vous ne voyez rien. Voilà, mais vous savez que vous êtes dessus parce que vous avez positionné vos étoiles auparavant. Vous avez pris une pause de 15 secondes. Certaines caméras vont jusqu'à 30 secondes. Et à 30 secondes, vous voyez l'objet. Donc, il vous suffit après de déplacer votre télescope et d'amener la fente de votre spectro, de l'amener sur l'objet. Et hop, aussitôt, vous prenez une étoile très proche, plus proche possible, vous mettez dessus votre réticule de guidage, et c'est parti. Vous lancez votre autoguidage, votre fente, elle est sur l'objet, parce que vous l'avez repéré dans une longue pause. Vous enlevez bien sûr la longue pause, parce que vous n'avez pas posé, vous n'avez pas corrigé tout. Vous laissez l'autoguidage corriger toutes les 15 secondes ou toutes les 30 secondes. Donc vous revenez très vite à des poses plus conventionnelles, c'est-à-dire 0,1, 0,5. Vous avez repéré votre étoile de guidage, c'est dessus, c'est parti. Donc à la limite, je dirais qu'on n'a presque pas besoin de voir. Mais c'est quand même mieux quand on voit. Hein. Alors là, que voyez-vous ? Eh bien, vous voyez, ça, c'est Saint-Michel, l'observatoire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pollution à Saint-Michel. Vous avez l'arrêt du mercure, l'arrêt du sodium, une autre raie du mercure. Alors, les raies sont différentes, je vous le répète, à cause des niveaux de ionisation. Hein. Plus c'est dans le bleu, plus c'est fortement ionisé. Vous avez les profondes raies du sodium. Et puis là, vous avez les raies du soufre. Les raies du soufre. Et ici, ce sont les raies. Je me disais, ça va pas. Vous retrouvez là la raie H-alpha avec les deux raies de l'azote qui l'entourent. Et Madame Acker, elle aime bien voir. Dans une ébauche planétaire, elle aime bien voir deux choses. Les raies de l'oxygène que vous voyez là, l'oxygène 3, et la raie H-bêta, qui sont de chaque côté de la raie 5007, et la raie H-bêta 4861. Et là, on est presque arrivé, on est arrivé à l'authenticité, pour dire c'est une nébuleuse planétaire, en effet. Parce que ma raie 5007, elle est ici, elle est présente, on la voit, elle est là. Et j'ai autour de ma raie H-alpha, j'ai mes deux raies de l'azote. Et vous allez me dire, mais dans M42 aussi. Alors là, c'est là où ça devient, où il faut continuer l'étude. C'est que si j'avais des spectres de comparaison. Donc, oui, alors qu'est-ce qu'il a fait, là, Christian Buide ? Il a toutes ces raies de pollution là, que vous voyez. Il a pris le fond de ciel, juste à côté, dans l'heure qui suit. Il a posé une heure sur la première. Il a pris le fond de ciel. Il a soustrait le fond de ciel de cette image. Et ça lui donne ce genre de résultats. Toujours la raie. Marquez une chose, elle n'est plus là. Donc, l'arrêt ici, c'est bien le signe de la nébuleuse planétaire. Parce qu'elle n'est pas dans la. Parce qu'il a tout pris en même temps. Il a pris les raies de la nébuleuse qui est sous-jacente, qui est une nébuleuse d'une région H2, et il a pris en même temps la nébuleuse planétaire. Donc, elle est absente ici, elle est présente là. Et les raies de l'azote sont dans les deux. Donc ça suffit pour authentifier pas que après, quand on aura tiré le profil, ce qu'on appelle les profils que vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on les aura tirés, eh bien, pour être absolument sûr que ce n'est pas une région H2, eh bien, on va comparer la force des raies. La force des raies, la force de la raie H-alpha en particulier, et la force des raies de l'oxygène. On les compare en mesurant ce qu'on appelle leur largeur équivalente. Dans un profil, la largeur équivalente. Oui, ok, on a fini, Eric. Hein. On a fini. Voilà. Bon, on va s'aider de ce schéma-là. La largeur équivalente, c'est la surface qui est sous la courbe. Ça se calcule avec un logiciel. Bon, vous calculez la largeur équivalente de cette raie-là. Vous calculez la largeur équivalente de cette raie-là. Là, c'est plus difficile parce qu'elles sont un peu mélangées. Hein, mais on peut très bien, avec certains artifices de calcul élaborés, on peut très bien les séparer, faire une formule, faire la gaussienne des trois courbes. Et on compare ces raies, ces largeurs équivalentes de ces raies dans la nébuleuse planétaire et dans la région sous-jacente qui est la région H2. Et quand on dans la nébuleuse planétaire, il y a de fortes chances que ces raies-là soient plus fortes. Pourquoi ? Parce qu'une étoile centrale de nébuleuse planétaire est toujours plus chaude qu'une étoile excitatrice d'une région H2. Les étoiles excitatrices des régions H2, ce sont des étoiles descentes. Elles sont chaudes, bien sûr, ce sont des étoiles O, mais elles n'ont pas la chaleur des étoiles centrales des nébuleuses planétaires qui, elles, peuvent atteindre entre 60 000 et 100 000 degrés. Donc, plus elle est chaude, plus elle excite, plus la raie est large. Donc, c'est QFD. Voilà un petit peu comment les amateurs, que ce soit, c'est ça qui est bien, c'est que ce soit les imageurs, ceux qui font de l'imagerie, ou ceux qui font de la spectro, eh bien, les deux se réunissent dans ce résultat-là. Les premiers découvrent l'intrus et les autres l'analysent. Parce qu'on n'est pas toujours obligé de demander à Agnès Acker de faire ce travail-là. La preuve, Christian Bull l'a fait, et chacun de nous peut, enfin, muni d'un spectro, peut le faire. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Hein ? Merci.
Voilà. Merci. Alors, pas expérience. Non, mais là, il faut s'arrêter pour faire la petite instant de pause. Et je sais par expérience qu'Agnès Acker, effectivement, elle envoie cet étudiant des analyses de RH2 qu'on fait à 4 heures du matin. Mais bon. Bien. Alors, je vous propose de faire une petite coupure. Donc, une petite pause. On va essayer de faire une petite photo de groupe aussi avant que tout le monde se disperse aussi ce soir éventuellement. Et je vous donne rendez-vous à peu près vers 16h30 au planétarium. On va s'y tenir. Alors, les animations qui étaient prévues là dans le premier créneau, donc observation du soleil en radio et le système solaire, sont reportées à 17h30. Et profitez aussi de la pause, allez à l'accueil. En fait, juste à côté de l'accueil, vous verrez, il y a une personne d'observatoire qui a installé un petit planétaire. Planétaire, c'est une sorte de maquette automatique pour montrer la position des planètes, qui est installée, donc à découvrir.
s'est bien passé. Ah, il y avait juste à raccorder et puis.
J'avais peur, c'est que le gars, il me fout tous mes échos dans l'air. Ce qui fait que je sais pas où est la chose que je cherche. Donc j'avais un peu peur de ça.
Ah ouais, non, mais là,
mais apparemment,
ça s'est bien passé. Hein.
Bonjour.
Est-ce que je peux tester ?
Bien sûr. Vous intervenez.
Pas aussitôt après, il y aura quelqu'un entre les deux.
Oui, mais sur entre 4h30 et puis.
Voilà.
Ah, il y en a une autre après à 20h.
Oui. D'accord. Ouais. C'est, j'ai un format PDF. Ça devrait passer.
On va tout de suite le savoir. On voit rien, comme ça. Vous allez. Hop, on va la mettre là.
Peut-être qu'il y a un dossier. Je connais de très loin. C'est PDF. C'est bon. Voilà. Il y a 4 pages. Je préfère le tester avant parce que ça évite de perdre du temps.
Ah ben complètement. 1, 2, 3, 4. 4 pages. C'est la lumière aussi. Hein, comme... J'espère.
D'accord.
Mais par contre, tu dis aux gens qui sortent.
Oui, d'accord.
S'il te plaît.
On peut pas agrandir, c'est maxi.
Ah non, c'est le maxi.
Oui, ouais. Ça va aller. Il faut toujours prévoir un gros maxi.
Ben oui.
Non,
mais là, de là, on voit.
C'est pas un souci parce que nous, on a fait des tirages.
Ok, donc c'est Charles. Ces dossiers-là.
Vous pouvez le mettre en attente.
Ouais, c'est celui-là, cette page. Je commence.
Oui.
Oui, c'est bien celui-là. 4 pages. Je vais mettre le diable pour le coup. Je vais le mettre. Comme ça, il sera là. Vous l'avez. Hein. Je vous rends votre clé.
Oui, c'est ce que vous voulez.
Bon bah tout à l'heure alors.
Merci.
Ouais, mais j'en profite pour vérifier ma clé.
Et du coup, moi, qu'est-ce que t'en penses plutôt que de mettre là pour les chauds ? Oui. Comme ça,
Ah bah attends, il commence bien, il reconnaît pas ma clé USB.
Ah, mais c'est pas grave, ça le fait de temps en temps.
Ah bon ? Bon. Oh, mais...
Ça fait toujours l'ordinateur.
Ah, c'est mieux déjà.
Analyser, réparer, continuer sur l'analyser.
Oh, bah, c'est bien. Bon. Ok, merci. Alors... C'est un PowerPoint normal qu'il y a dessus, hein. Oui, c'est bon.
Ouais.
Je le trouve pas.
Comment ?
Je trouve plus mes petits. Attends. Ah oui, EMF. Ben on le voit, c'est bon. Bon, ça marche ? Donc, ce que je vais faire... Je vais faire fichier enregistré. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs vu qu'il faut que je fasse... court.
Là, tu passeras les diapos que tu veux pas mettre, sinon c'est que tu les enlèves direct ?
Non, j'enlève rien.
Ah oui. Bah, il t'a dit que t'avais combien de temps finalement ?
Bah, je vais essayer de faire ça en 20 minutes, vu le retard. Enregistrer ce ouf. Je vais le mettre là déjà sur le bureau. Hop là. Je te copie là-dessus comme ça.